nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Pourquoi ne cherches-tu pas à mourir si le monde t'est insupportable? Si la mort était la fin de tout, je me donnerais la mort de suite. Mais pour qu'elle soit la fin de tout, il faut anéantir avec soi l'univers. Et cela est impossible. La vie continuera éternellement. La vie, c'est le miracle de l'amour. Cette chose que je déteste le plus au monde. Tu sais, il faudrait anéantir l'amour. Plus d'amour, plus de vie. Marc et Florent se sentent bien ensemble. Les jours passent, calmes et tranquilles. D'une de leurs promenades, Marc dit à Florent « Regarde comme c'est beau, c'est magnifique, l'homme ne pourra jamais égaler la nature. Rien n'est plus beau que les montagnes, les arbres, les fleurs. Tu sais, Dieu aurait dû se contenter de créer le monde végétal, la terre, les rochers, l'eau, le ciel, le soleil, les seules choses que j'aime en ce monde, c'est cela. Et c'est aussi à cause de tout ceci que je ne peux pas entièrement détester Dieu. Après quelque temps, Marc voulait partir. Il roulait droit devant eux. Et sont arrivés au village de Saint-Martin, qui est au pied des montagnes. C'était un village sans importance, avec sa mairie, son école, sa gare et en plus son château. Et oui, un château qui se trouvait un peu en dehors du village, sur une hauteur. C'était un château qui avait été moyenâgeux, mais à cause des aménagements faits au cours des siècles, était sans âge ni architecture. Il appartenait à la famille du comte de Godefroy d'Audepin de la Croix de Saint-Martin. Marc et Florent allèrent se restaurer au seul café-restaurant du village. Le patron du café, qui était aussi le maire du café, le maire du village, demanda à Marc et Florent s'ils connaissaient les curiosités de la région. Et comme leur réponse était négative, il vanta les montagnes environnantes, les forêts, les glaciers. Il décrivit le village avec son glacier, son église et surtout son château.
Tiens, c'est quoi le décor ? Arrête pas de grandir, mon garçon. Ton pantalon ne te suit pas.
Puis, après le repas, ils allèrent visiter le village et ses environs. Après avoir vu l'église, ils décidèrent d'aller voir le château. Et pour ça, ils prirent la voiture.
Excusez-moi, savez-vous où habite le docteur Morilly ?
Oui, juste là, à gauche.
Je vous remercie.
Ils arrivèrent Le château était construit sur un rocher qui dominait une vallée de sapins. Le château avait une forme étrange car il était fait de la même couleur que le rocher où il se trouvait. Arrivés au bout de la montagne, ils aboutirent devant l'entrée du château. Ils sont arrêtés devant l'entrée d'un petit parc où se trouve au fond le château. Ils longent un chemin pour aller jusqu'au château. Devant l'entrée du château se trouvait un vieil homme. Il était assis sur une chaise, le regard pensif. Marc lui dit « Pardon, monsieur. » Le monsieur dit « Pourquoi disons-nous que le café est trop chaud ?»« Ce n'est pas le café qui est trop chaud, mais l'eau dans laquelle on a mis le café. » Donc, l'on devrait dire que l'eau du café est trop chaude. Mais le café qui a été mis dans l'eau a été chauffé par l'eau. Et lui aussi est trop chaud. Et puis le café a été grillé, donc chauffé avant d'être vendu. Oui, mais il était froid lorsque l'a mis dans l'eau chaude. Oui, mais, Marc dit, pardon monsieur. Le monsieur voit enfin Marc et Florent. Pardonnez-moi, messieurs, mais lorsque je suis dans mes rêves, vous êtes sans le doute les messieurs que monsieur le comte attend. Florent regarde Marc. Marc dit, oui. Si vous permettez, je vais vous conduire à monsieur le comte. Oui, je fais tout ici. Je suis jardinier, maître d'hôtel et cuisinier. Car monsieur, depuis la mort du père de monsieur le comte, nous sommes trouvés ruinés. L'ancien monsieur le comte aimait trop les danseuses. Faire entrer dans le château. Ils prirent un grand escalier qui se trouvait devant l'entrée. Laissez Martin, je conduirai moi-même ces messieurs. Cette voix venait du haut de l'escalier. Une jeune fille s'y trouvait. Elle devait avoir dans les 20 ans, grande, mince, avec les yeux bleus, blonds, un visage pur. Elle portait une robe blanche. Martin se retira. Marc et Florent montèrent vers la jeune fille. Ils s'inclinèrent devant elle. « Je m'appelle Nadine. Je ne vous ai jamais vue, mais vous, vous devez être Julia. Et vous, en désignant Florent, vous devez être Lucien. » Ils dirent oui. « Venez, je vais vous conduire à mon frère. » Ils longèrent un long couloir. Arrivèrent devant une porte. Elle frappa. Une voix dit « Entrez !» Elle ouvrit la porte. Avant que Marc ait pu rentrer dans la pièce, elle le retint quelques secondes par le bras et mit son doigt sur la bouche. Ils entrèrent tous les trois dans une pièce claire et nette, baignée de soleil. Elle était presque nue. Au milieu de la pièce se trouvait un bureau. Devant ce bureau, debout, se trouvait un jeune homme d'une 20aine d'années et qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la jeune fille. Je ne pouvais pas s'y méprendre. Il était bien jumeau, lui aussi habillé de blanc, avec en guise de cravate un foulard rouge. Elle fit les présentations. Je suis très heureux de faire votre connaissance. J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué. Ne pas se connaître en votre cousin peut paraître ridicule, mais c'est votre père qui s'était disputé à mort avec le mien. Il disait que c'était à cause de mon père, si sa sœur s'était suicidée, avait juré de plus avoir des rapports avec notre famille. Et il est parti au Congo pour ses affaires. Et ma sœur, qui a eu l'idée de vous écrire pour que nous renouvelions connaissance. Je m'excuse de ne pouvoir converser plus longtemps avec vous, mais j'ai affaire. Nous nous retrouverons pour dîner. Ma sœur va s'occuper de vous en attendant. Et ils sortent de la chambre, du bureau, je veux dire. Nadine va leur montrer leur chambre. Elle n'est pas surprise qu'il n'ait pas de bagages. Pendant ce temps, son frère Didier écrit « J'ai l'âme en peine. Voilà plus d'un an que je n'ai pas de tes nouvelles. J'aimerais mourir. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma petite flamme, ma vie, mon âme. Chaque fois que mes pensées se posent sur autre chose que toi, j'ai l'impression de t'être infidèle, d'être infidèle. Cela me fait horriblement souffrir chaque fois que je pense à toi. Ma poitrine se serre et j'en souffre tellement que cela me fait fermer les poings. Je n'ai goût à rien. J'aimerais passer ma vie auprès de toi, à te contempler, à te servir. J'aimerais faire partie de toi, être dans toi. Je sais, j'ai juré, mais il y a des moments où je suis prêt à tout, à toutes les folies, et veux te rejoindre. Où aimes-tu es? Pourquoi m'empêches-tu de te revoir? Pourquoi m'as-tu fait jurer de ne jamais chercher à te revoir? J'ai juré, mais j'en souffre. Je n'en peux plus, j'aimerais mourir. J'en souffre tellement, tellement, moi. Je veux revoir ton visage angélique. Tu as de si beaux yeux et ton petit nez. J'aimerais m'approcher de ton corps qui est si mince comme celui d'une fée. Ton corps si beau, si doux. J'aimerais mettre ma tête sur ta poitrine et m'endormir. Dormir ou mourir auprès de toi, voilà le bonheur. Tu as un sourire si délicat, une voix si douce comme le murmure du ruisseau. Tes mains sont fines et délicates, leurs mouvements ont la grâce d'un envol de papillons. J'aime tes cheveux, ils sont noirs, et contraste avec ton corps. Tu es fine et fragile comme les blondes, mais ton âme est ferme et énergique comme la couleur de tes cheveux. Te souviens-tu de ce bel été que nous avons passé ensemble, ma sœur et moi? nous avions invité ton mari et toi. Ton mari était un vieil ami de notre famille. Lorsque vous êtes arrivé, j'ai été surpris de te voir si jeune, si belle. Tu avais 18 ans et ton mari en avait 37. Je t'ai aimé de suite en me jurant de ne jamais te le dire. Nous avons vite sympathisé. Le matin, nous levions tôt pour faire de longues marches dans la forêt environnante. Quand nous promenions, nous parlions beaucoup. Nous étions rendus compte que nous avions les mêmes goûts. Nous parlions d'un roman à la mode qui s'appelait « Le lac de Montrion ». Chaque jour, mon amour pour toi augmentait. Il se transformait en amour idolâtre. J'étais émerveillé par ton visage, ton corps. Au cours de nos promenades, il nous arrivait, c'est de nous arrêter dans l'herbe, de nous asseoir dans l'herbe au pied d'un torrent. Je mettais en face de toi et en sorte à ce que je puisse te voir en entier. Tu étais là, devant moi, avec ta robe blanche. La lumière matinale t'illuminait tout entière. Elle rendait ta peau encore plus blanche, tellement blanche qu'elle avait l'air d'être transparente. Là, nous ne parlions pas. Nous étions bien. Le bruit de l'eau, du torrent, la douceur de l'air et tous les arbres autour de nous. Un jour, tu me dis, nous sommes amis, n'est-ce pas? Ton mari trouvait charmant cette amitié entre nous. Il t'aimait, mais se sentait gêné avec toi. Il avait besoin, qu'il y ait une tierce personne entre vous. Les jours passaient, nous sentions de plus en plus proches. Un jour, nous avons été pris par l'orage. Nous avons couru pour nous abriter dans une ancienne cabane de bûcherons. Tu es arrivé avant moi. Lorsque je suis rentré, je t'ai vu. Tu étais encore plus belle. Tu te trouvais au fond de la cabane. Debout, droite, les vêtements mouillés collés à ton corps. Pendant une seconde, nous nous sommes regardés. Et puis, tu as dit, nous sommes beaux tous les deux, mouillés de la tête aux pieds. Enlevez votre chemise et vos chaussures. Venez vers moi, je vais vous sécher. Tu as pris ma chemise et l'as mis en boule avec elle. Tu m'as frictionné le dos et la poitrine. les petits bouts de ta main, je les sentais. Il dépassait du tissu et touchait discrètement ma peau. Cela me faisait rougir et me gênait beaucoup. Toi, tu me regardais pas. Au bout d'un moment, tu t'arrêtas, pris un peigne dans ta poche de ta robe et te mis à me peigner. Ensuite, tu voulais que je te peigne. Je le fis, mais j'étais tellement troublé que tu me dis d'arrêter, car je te faisais mal. L'orage avait cessé. Nous avons pu repartir.
Au retour, avant de rentrer dans ta chambre, tu m'as regardé d'un air triste. Puis, tu es rentré dans ta chambre. Moi, je suis retourné dans ma chambre, la tête en feu. Je me suis déshabillé. Et j'ai pris ma douche. Puis, je me suis allongé sur le lit. Je restais des heures allongé sur le lit. Demain matin, il pleuvait et nous ne pouvions pas sortir. Ton mari était parti tôt le matin et Nadine restait dans sa chambre. Nous avons pris ensemble notre petit déjeuner. Et nous avons décidé c'est de passer la matinée à écouter de la musique. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.